Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette cathédrale Sainte-Marie de Bayonne, et vous aussi qui nous rejoignez par les ondes de Radio Lapourdi ou par la vidéo, pour entourer Alexandre Blodeau et Joseph Nguyen avec de toute votre affection, avec sans doute beaucoup d'émotion, au jour où ils vont devenir prêtres pour le service du diocèse de Bayonne, l'Escar et Oloron. Je salue avec une particulière affection les parents et la famille d'Alexandre, ici présents, et ceux de Joseph, qui nous regardent depuis son Vietnam natal, et qui sont représentés par beaucoup d'amis aujourd'hui. J'en profite aussi pour saluer les prêtres venus les accueillir dans la fraternité sacerdotale, et en particulier l'abbé Nolo, curé de Blanzais, où Alexandre a reçu sa première formation chrétienne, et aussi le père Daniel Ange, qui est parmi nous et qui a accueilli Joseph durant 2 années à Jeunesse Lumière. Vous avez entendu les paroles de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Cher fils, c'est votre vocation d'avoir été mis à part. Et comme le souligne saint Paul, dès avant votre naissance, et donc non pas en vertu de vos mérites, mais par pure grâce. C'est un appel dont la singularité est toute suspendue à l'amour de prédilection que le Seigneur vous porte. Comme dit Jésus, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. Tu le dis très bien, Joseph, dans ta lettre, quand tu écris « Je sais bien que si j'ai été choisi, ce n'est pas parce que je suis le meilleur ni le plus digne. Son amour me précède. Son amour me précède. » Aussi, quand j'ai demandé à l'instant au recteur du séminaire qui vous présente aujourd'hui à l'ordination « Savez-vous s'il a les aptitudes requises ?» je lui demandais seulement de me rendre compte de la manière dont vous vous êtes disposé tout au long de votre formation à correspondre à son appel tout particulier et absolument gratuit. Il y aura toujours un décalage entre la mission qui vous sera confiée et vos aptitudes personnelles, comme tu l'écris très bien, Alexandre. La tâche est immense, dis-tu. Le décalage entre la mission et mes capacités l'est également. Tout cela pourrait bien être décourageant s'il s'agissait d'une entreprise humaine. Mais c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. C'est le Seigneur qui est à l'œuvre. Vous avez été mis à part déjà pour votre formation, pour prendre conscience du don singulier de votre vocation et vous adapter à son mystère. Vous avez accompli un long temps de formation au séminaire. Vous avez fait l'expérience que le Christ a réservé à ses apôtres dans une relation prolongée avec lui à l'écart des foules, et nous y tenons à cette formation à l'écart des foules. Avant de les envoyer prêcher l'Évangile à toute la création, il en a fait ses compagnons, les attirant dans son intimité. Cette intimité prolongée a même été comme le laboratoire de leur foi. D'une foi suffisamment formée pour être communiquée à tous. C'est l'expérience de Simon-Pierre et des autres disciples à Césarée de Philippe, alors que Jésus priait précisément à l'écart. À la belle profession de foi de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus répondit solennellement, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Jésus continuera de bâtir son Église sur votre profession de foi, en particulier à travers votre charge d'enseignement, à condition, cher fils, que ce soit toujours en communion affective et effective avec le successeur de Pierre. Paul lui-même, qui revendique d'avoir connu l'Évangile directement, n'en reconnaît pas moins la primauté de Pierre lorsqu'il nous apprend qu'il est monté à Jérusalem à seule fin de le rencontrer et auprès de qui il est resté 15 jours. Il est monté à Jérusalem seulement pour exprimer sa communion avec celui sur qui Jésus a fondé son Église. À la révélation de Césarée de Philippe, saint Paul fait comme écho lorsqu'il affirme que ce n'est pas par un homme qu'il a reçu l'Évangile, mais, comme il le dit, par révélation de Jésus-Christ, en se référant à sa rencontre bouleversante avec le Christ ressuscité sur le chemin de Damas. À partir de ce moment-là, comme il nous le dit, il partira pour l'Arabie, il fera 3 années de noviciat au désert, où s'accompliront ces mots qu'il vient de nous dire, et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Ce temps fut pour Paul, lui aussi, le laboratoire de sa foi. Comme l'explique saint Thomas d'Aquin, ce que vous avez étudié au cours de vos études de théologie, la foi se définit par son objet, qui est Dieu, vérité première, se révélant au plus intime de l'homme. La foi, c'est Dieu, vérité, qui prend possession de l'intelligence et qui s'attire à lui la personne tout entière. Je vous pose ces questions auxquelles vous répondrez sans doute, bien sûr, dans votre cœur, n'est-ce pas ? Avez-vous laissé le Seigneur révéler en vous son Fils tout au long de votre formation ? Êtes-vous disposé aujourd'hui à continuer cette formation par l'écoute de la parole de Dieu, par l'étude et la prière, qui nécessiteront de réitérer souvent cet aparté avec le Christ qui était favorisé pour vous depuis des années au séminaire. Mais vous êtes encore mis à part par état, à travers l'imposition de mes mains, qui constitue le cœur même du sacrement de l'ordre. Vous serez mis à part encore plus profondément. Vous serez configuré ontologiquement au Christ tête, pasteur, serviteur et époux de l'Église. Une marque distinctive, indélébile, sera imprimée dans votre être pour tenir dans l'Église une place déterminée, permanente et irréversible que rien ne pourra détruire, vous m'entendez ? Que rien ne pourra détruire, ni le péché, ni l'apostasie, ni même les gesticulations de ceux qui, sous prétexte des abus graves sans doute, dont certains prêtres se sont rendus coupables, voudraient minimiser, voire nier, ce qu'on appelle le caractère sacramentel et qui est l'effet réel de l'ordination, l'effet de l'acte invisible et actuel du Christ, dont le geste de l'imposition des mains, qui remonte directement aux apôtres, est précisément le signe. Vous ne pourrez pas renier cette mise à part. Vous serez prêtre pour l'éternité. Le caractère sacramentel fera de vous les instruments du Christ, avec la possibilité permanente de poser les actes mêmes du Seigneur Jésus. Sans doute, vous resterez des instruments libres dont les actes ministériels devront être consciemment voulus et posés comme tels. Vous serez donc doté d'un pouvoir sacré. En ce sens, la guérison miraculeuse de l'infirme de la belle porte du temple est très significative, n'est-ce pas ? La puissance de ce geste contraste avec la pauvreté matérielle de Pierre. « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Pauvre matériellement, mais riche de Jésus-Christ et de son pouvoir de salut. Car la guérison de cet infirme, n'est-ce pas, a évidemment une signification proprement spirituelle. L'invocation du nom de Jésus n'est pas anodine. Cela signifie « le Seigneur sauve » et situe l'action de Pierre au cœur même de l'œuvre de salut dont Jésus restera toujours le seul protagoniste à travers vous. D'ailleurs, cet homme n'est pas seulement guéri physiquement. Il ne se contente pas de marcher et de bondir, mais il entre avec eux dans le temple et il louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. C'est une belle parabole en acte du ministère sacerdotal. Jésus va déposer dans vos mains vides le trésor de ses sacrements pour relever l'homme. Et relever veut dire ressusciter. Pour relever l'homme blessé par le péché, le remettre en état de viator, celui qui marche vers la cité céleste, dont le temple est le symbole sur la terre et dont la louange et l'action de grâce sont l'activité principale et la béatitude. C'est pour cela en particulier que vous recevrez ce grand pouvoir de remettre les péchés. L'évangile que nous venons d'entendre me suggère d'insister plus particulièrement sur la mission de pasteur qui vous sera confiée. Comme dit saint Augustin, le ministère pastoral est « officium amoris », l'office de l'amour. Le prêtre n'est pas un leader comme un autre, ni un manager, à qui seraient demandées des compétences techniques, d'organisation et de planification, de conduite de réunion et de projet, de gestion des personnes et des biens. Je ne dis pas que cela n'a pas souvent son importance dans notre ministère. Mais ce que Jésus voulait vérifier chez Simon-Pierre, c'est d'abord l'amour qu'il a pour lui, non pas l'amour présomptueux dont il fit montre au soir du Jeudi Saint, lorsqu'il jurait ses grands dieux que lui au moins n'abandonnerait pas son maître. « Je donnerai ma vie pour toi », disait-il. Mais l'amour humble de celui qui a renié a fait l'expérience de sa misère de pécheur et se sait pardonné. En l'interrogeant par trois fois devant ses frères, Jésus demande à Simon-Pierre une confession publique qui répare son triple reniement. Pierre l'a très bien compris, lui qui fut peiné, parce que pour la troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu ?» Remarquez la délicatesse de Jésus, qui amène Pierre à confesser son péché sans lui faire d'amers reproches. C'est la délicatesse de l'amour qu'il vous faudra vous aussi dans ce beau ministère de la confession. En tout cas, c'est à la condition de cette triple confession d'amour. Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, que Jésus lui confiera la charge de paître ses agneaux et ses brebis. C'est par l'amour même dont il est aimé par Jésus, un amour agapé, l'amour gratuit de Dieu qui va jusqu'à pardonner, qu'il est appelé à conduire son troupeau. Aujourd'hui, cher fils, pour vous confier cette mission de pasteur de son peuple, Jésus veut vérifier l'amour que vous lui portez. Et c'est chaque jour, dans la célébration de la Sainte Messe, dans l'oraison ou l'adoration, que Jésus suspendra votre mission à la question permanente. M'aimes-tu ? Le pasteur, c'est celui qui conduit son troupeau par amour. Un amour qui doit être à la mesure de l'amour qu'il a pour Jésus, lui qui est le seul et vrai bon pasteur. À son exemple, vous aurez à connaître vos brebis par le cœur, une par une. et elles devront pouvoir reconnaître que vous les aimez, et à travers vous, que le Christ les aime, lui qui a donné sa vie pour elles, et qui vous pressera de faire de même. La mission de pasteur est inséparable de la charge d'enseigner, comme dit Jésus, « Les brebis écoutent ma voix », et aussi de la charge de sanctifier par les sacrements, et en particulier par la célébration du Saint Sacrifice de la Messe, où s'accomplit la mission même du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. « Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. » Vous savez bien en effet que le sacerdoce ministériel se définit d'abord par la célébration de l'Eucharistie, dans laquelle vous rendrez présent in persona Christi, l'unique sacrifice qu'il a offert une fois pour toutes sur la croix pour sauver le genre humain. Et précisément parce que l'Eucharistie fait l'Église, comme disait le père de Lubac, il est tout naturel que celui qui préside l'une préside aussi l'autre. Saint Thomas le précise en disant que si l'Eucharistie est le sacrement du corps mystique, alors le prêtre reçoit un pouvoir et sur le corps réel du Christ, c'est son ministère eucharistique, et sur son corps mystique à construire, à faire vivre et à développer, c'est tout son ministère pastoral qui comprend aussi son ministère d'enseignement. Mais il faut bien comprendre comment le prêtre est appelé à exercer ce triple pouvoir sacerdotal. Quand il s'agit des sacrements, il est l'instrument de la puissance divinisatrice du Christ et de l'Esprit-Saint, toujours efficace, même s'il n'est pas en état de grâce, même s'il n'est pas en état de grâce. Quand il prêche, il doit être le témoin décomplexé de l'autorité de la parole de Dieu, « car qui vous écoute, m'écoute », disait Jésus à ses apôtres. Mais c'est le pouvoir de la vérité elle-même sur l'intelligence, et non le pouvoir abusif de ses opinions personnelles. Quand il exerce l'autorité sur le corps mystique, il le fait selon ce que Jésus dit lui-même de son pouvoir, celui qu'il a reçu du Père. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Vous exercerez votre fonction de pasteur, non pas à partir de vous-même, selon vos caprices ou vos intérêts, comme dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Mais si vous êtes mis à part, vous ne serez pas pour autant séparés. Pris d'entre les hommes, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, vous demeurerez solidaires de la masse humaine et chrétienne dont vous êtes vous-même issus. Par votre ordination, vous ne serez pas placés en surplomb du peuple de Dieu, mais engagé avec tous les baptisés dans l'aventure de la sainteté. Pour vous, je suis évêque, mais avec vous, je suis chrétien, disait saint Augustin en s'adressant à son peuple. La grâce sanctifiante que vous recevrez avec le caractère sacramentel n'est que le développement de la grâce baptismale qui demeure inséparable, mais qui sera comme une intensification de la dimension sacerdotale de cette grâce baptismale. Vous la ferez grandir précisément à travers les actes de votre ministère, dans la mesure où ils seront toujours inspirés par la charité pastorale. Votre mission sera premièrement au service du déploiement plénier du sacerdoce commun des fidèles, qui consiste non pas à exercer un pouvoir, mais à offrir leur personne tout entière en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et à témoigner dans le monde d'une vie sainte qui ne se modèle pas sur le monde présent. C'est dans l'unique oblation du Christ, rendue présente par vos mains dans l'Eucharistie, que s'accomplit pleinement le sacerdoce commun des fidèles. Ils y participent à sa fécondité pour le salut du genre humain et ils y puisent la grâce d'une vie sainte. C'est là le grand défi de la vie et du ministère des prêtres. Confiez donc maintenant, cher fils, l'exercice de cette paternité spirituelle qui va vous être donnée à Saint Joseph, comme vous le mentionnez dans vos lettres, en cette année qui lui est consacrée, lui qui s'est effacé devant le Père, lui qui s'est dépouillé de lui-même et dont toute la vie a été centrée sur Jésus et sur Marie, et toute votre vie devra être centrée sur Jésus et sur Marie. Consacrez une fois encore votre sacerdoce à la bienheureuse Vierge Marie, elle à qui Jésus, en Saint Jean, a confié tout particulièrement les prêtres. Amen.